J'espère que vous la terminerez encore mieux lorsque vous aurez reçu la parole de Dieu dans votre cœur. On va lire, si vous voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 36. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 et le verset 36. Voilà ce qui est dit. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur ce verset 40 où il est dit que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, par plusieurs autres paroles, conjurait ses auditeurs, les pressait, il insistait vivement auprès d'eux, les exhortant et disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez, dans des situations extrêmes, quand on est au bout du rouleau, quand les conditions sont particulièrement dramatiques, on dit que c'est le sauve qui peut. Parce que il n'y a pas de solution apparente pour s'en sortir. Eh bien, c'est un petit peu de cela dont il s'agit ici, voyez, l'apôtre Pierre dit à ses auditeurs en matière de conclusion de sa prédication, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» C'est aussi eh bien, le cri que nous voudrions lancer cet après-midi, « Sauvez-vous !» Sauvez-vous de votre péché, sauvez-vous de votre égarement, sauvez-vous de cette voie de perdition, de condamnation, il faut le dire, de malédiction dans laquelle, peut-être inconsciemment, vous êtes engagé. Et pourtant, voyez-vous, l'apôtre Pierre dit « Sauvez-vous !» Et pourtant, c'est Dieu qui sauve. Alors ça paraît contradictoire, puisque c'est Dieu qui sauve. Nous n'avons pas la capacité de nous sauver nous-mêmes, par nos efforts, par nos mérites. L'Écriture dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, de nous, c'est le don de Dieu. Mais pourtant, s'il est vrai que c'est Dieu qui sauve, nous avons notre part à faire pour qu'il puisse nous sauver, pour que son œuvre puisse se réaliser dans notre vie. Nous avons des conditions des conditions à remplir, conditions à remplir pour être sauvé, pour hériter de la vie éternelle, pour recevoir le pardon des péchés, pour aller au ciel un jour, conditions que la parole de Dieu nous présente ici dans ce texte, et j'aimerais m'y attarder avec vous quelques instants. Ces conditions, elles se décomposent en quatre points. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait de l'émotion. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait une décision. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait un engagement. Et pour être sauvé, il faut qu'il y ait, de notre part bien sûr, de la persévérance. De l'émotion, une décision, un engagement, de la persévérance. Commençons par le commencement, l'émotion. Elle est présente là dans ce texte. Regardez. Il est dit qu'après avoir entendu ce discours, cette prédication pressante, insistante de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Le texte original écrit en hébreu dit littéralement, ils furent transpercés au cœur, comme si une épée en quelque sorte les avait pénétrés de part en part. Ils eurent le cœur vivement touché. Vous savez, devenir chrétien, ça n'est pas simplement le résultat d'une adhésion intellectuelle à quelques éléments de la Bible, à quelques éléments du credo chrétien. Il ne s'agit pas simplement que nos méninges, nos neurones soient chatouillés par les arguments d'un prédicateur. Non, devenir chrétien, c'est une affaire de cœur. Alléluia, c'est une affaire de cœur. Et c'est ce qui s'est passé là. À l'écoute de la prédication donc de Pierre qui leur parlait de la part de Dieu, ces gens-là, vous voyez, cet auditoire conséquent, ils étaient plusieurs milliers, ces gens-là furent saisis d'une vive émotion, une conviction profonde s'est emparée d'eux. Et je voudrais prier dans mon cœur pour que cet après-midi, vous puissiez connaître, vous puissiez vivre une telle émotion, une telle conviction. De quelle émotion, de quelle conviction s'agit-il? Eh bien, ils venaient de recevoir la révélation de leur péché. Vous savez, c'est quelque chose, ça. Quand Dieu nous éclaire sur notre condition de pécheur, jusque-là, peut-être, nous avions, ma foi, une bonne opinion de nous-mêmes, nous ne nous sentions pas particulièrement coupables, mais voici que, au travers de sa parole, eh bien, Dieu va mettre comme un flash sur l'état réel de notre cœur et nous allons découvrir, nous allons prendre conscience de ce que nous sommes, à savoir des pécheurs, des hommes, des femmes qui ont offensé Dieu, qui ont transgressé ses lois, qui ont désobéi à ses commandements et qui, de ce fait, sont coupables au plus haut point. C'est ce qui s'est passé là, voyez. Ils comprenaient tout à coup, ces Israélites qui écoutaient Pierre prêcher, que ce Jésus qui avait été crucifié peu de temps auparavant était véritablement le Fils de Dieu. Ils comprenaient qu'il était vraiment le Messie promis et que finalement ils avaient été responsables de sa mort, qu'il était mort pour eux, Jésus, qu'il était mort à cause d'eux, mais qu'il était aussi ressuscité. Je voudrais vous dire cet après-midi que ce qui était vrai pour eux, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Savez-vous que nous sommes responsables, co-responsables de la mort de Jésus? Ah oui, parce que l'Écriture dit que Christ est mort pour nous, Christ est mort pour nos péchés, afin de les expier, afin d'en rendre le pardon possible. Il faut insister sur cette vérité et nous le faisons à chacune de nos réunions. C'est la vérité centrale de l'Évangile, voyez. Christ qui était sans péché, qui n'avait jamais désobéi au moindre commandement de Dieu, comprenez-le, sachez-le, il l'a fait cela aussi pour vous. Il s'est chargé de nos péchés, des vôtres, des miens. Et là-haut sur la croix du calvaire, il a subi. Il a reçu à notre place, n'est-ce pas, le châtiment, la condamnation que nous méritions. C'est pour cela que nous pouvons être pardonnés. Uniquement pour cela. Dieu ne nous fait pas grâce sur notre bonne mine. Dieu ne nous fait pas grâce parce que nous sommes des gens particulièrement remarquables. Ça n'est pas vrai du tout. L'Écriture dit que le meilleur d'entre nous, entendez-vous, le meilleur d'entre nous, il est pire qu'un buisson d'épines. Il est misérable, il est coupable, il est disqualifié aux yeux de Dieu de par son péché. Mais voici, une occasion de salut nous est offerte. Christ est mort, dit la Bible, bien plus, il est ressuscité. Et parce qu'il a accompli cette œuvre sur la croix, nos péchés peuvent être pardonnés. Alléluia. Voyez, il y a un verset de la Bible qui dit ceci, « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, n'est-ce pas ?» Ah, nous ne pouvons pas régler le problème de nos péchés nous-mêmes. L'Écriture dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Un léopard peut-il enlever ses taches ? Nullement. De la même manière, vous ne pouvez pas pratiquer le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal. Mais ce que nous ne pouvons pas faire par nos efforts, Dieu est désireux de le réaliser en nous, de le réaliser pour nous. Et je voudrais tellement, tellement que vos yeux s'ouvrent et que vous connaissiez ce genre de conviction, ce genre d'émotion qui va vous propulser, vous jeter aux pieds du Seigneur en lui disant « Seigneur, fais-moi grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta miséricorde. C'est extraordinaire. La vie d'un homme, la vie d'une femme peuvent être changées en un instant, un seul. Lorsqu'il confesse ses péchés, l'Écriture dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Y a-t-il quelque chose qui pèse sur votre cœur ? Y a-t-il quelque chose ou peut-être une multitude de choses dont vous n'êtes pas fier ? Que vous avez soigneusement caché, dissimulé, même à ceux qui vous touchent le plus près, parce que cela vous fait honte, parce que cela vous fait rougir de honte, parce que vous vous dites, si seulement je n'avais pas commis un tel acte, mais voici, vous l'avez commis. Eh bien, ce péché, ces péchés-là, qui se sont accumulés tout au long de votre vie, Dieu, en cet instant, cet après-midi, est désireux de les effacer. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et la Bible dit que le sang de Jésus, ce sang, symbole de vie innocente, parfaite, sacrifiée pour nous, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il peut vous rendre une conscience nette, pure, n'est-ce pas ? Il peut faire en sorte que vous sortiez de ce lieu tout à l'heure sans péché, dégagé de toute culpabilité, aussi pur que ce que vous étiez le jour où vous êtes né. Parce que le pardon de Dieu, il est absolu. Et il est définitif que son nom soit béni. Il y a eu, oui, de l'émotion. Mais cette émotion ne suffit pas. J'ai trop vu dans nos réunions des gens parfois pleurer, des gens verser quelques larmes parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, leur cœur était bouleversé, leur cœur était touché. Tenez, il n'y a pas si longtemps que cela, dans une de nos réunions de jeunesse, une jeune fille est venue accompagnée d'une de ses amies qui fait partie d'une famille chrétienne. Et cette jeune fille, eh bien, a été éduquée, paraît-il, dans un foyer complètement athée. Dieu n'existe pas. Mais enfin, parce que sa camarade lui a parlé de ses réunions, elle est venue un petit peu sceptique sur ce qui allait se dire, ce qui allait se faire. Et puis là, eh bien, l'œuvre de Dieu s'est faite. Alléluia. Une réunion toute simple, quelques témoignages, quelques chants. Et au cours de la réunion, les larmes ont commencé à couler. C'est bien, mes amis, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin que cela. Vous savez, il y a des gens qui auront pleuré à chaque réunion et qui se retrouveront en enfer. Parce que après l'émotion, il faut qu'il y ait la décision. La décision. Un pas de plus. Ils l'ont réalisé, ces gens-là. Lorsque leur cœur a été vivement touché, ils se sont écriés, s'adressant à l'apôtre Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Et Pierre a répondu à cette question tout d'abord, « Repentez-vous. » Repentez-vous. Ils devaient le faire, se repentir. Nous devons le faire. Vous devez le faire également. C'est quoi ça, se repentir ? Oh, ça n'est rien à faire. Ça ne concerne pas... N'est-ce pas ? Quelques sacrements administrés par un homme d'église, ça ne consiste pas à recevoir un rite, à pratiquer une cérémonie religieuse particulière. Non, 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 c'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est beaucoup plus profond que cela. Se repentir, c'est tout d'abord regretter amèrement le mal que nous avons commis. Le péché dont nous nous sommes rendus coupables, c'est le reconnaître, c'est l'avouer, c'est le confesser. À qui ? Mais à Dieu seul, mes amis. Parce que c'est Dieu qui a été offensé. Comment irais-je parler de mes péchés à un homme qui est tout autant pécheur que moi ? Ça ne sert à rien, ça. C'est à Dieu que nous devons confesser nos fautes. C'est à Dieu que nous devons dire, Seigneur, devant toi seul, je reconnais mon état, je reconnais ma responsabilité, je reconnais ma culpabilité, et du fond de mon cœur, je t'en demande humblement pardon. Alors, je le disais il y a un instant, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait miséricorde. J'ai le témoignage, et vous l'avez aussi dans la parole de Dieu, de cet homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Et parlant de son lourd passé, il dira, j'étais un persécuteur, j'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Cet après-midi, vous pouvez obtenir miséricorde. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez rien à voir avec ce genre d'individu. Peut-être vous n'êtes pas un blasphémateur. Peut-être vous n'êtes pas particulièrement violent, agressif. Je veux bien le croire, Dieu le sait. Mais vous êtes un pécheur en tout cas, et vous devez le lui confesser. Tout à l'heure, nous aurons à l'issue de cette prédication, à la fin de cette réunion, un temps de prière. Mes amis, je vous en prie, je vous en supplie, si je pouvais vous convaincre en me mettant à genoux devant vous, je le ferais. Repentez-vous de vos péchés. N'essayez pas de puiser dans le souvenir de votre enfance quelques prières, quelques récitations religieuses et pieuses, laborieusement apprises par cœur, mais parlez avec votre cœur. Et dites-lui, Seigneur, je t'ai offensé, j'ai fait le mal, j'ai cru que je pouvais vivre sans rien tenir compte de tes commandements, de tes prescriptions. J'ai eu tort, je t'ai désobéi, je t'ai offensé, je te demande de me faire grâce. Je te demande, comme tu le fis pour Saul de Tarse, de me faire miséricorde. Et il le fera. Alléluia. Reconnaissez votre faute. Désirez l'abandonner, y renoncer définitivement, parce que se repentir, c'est cela aussi. C'est renoncer à la pratique du péché. C'est le rejeter, l'expulser, le bannir, je dirais le vomir de notre vie. Alors oui, Dieu fait grâce. Alors oui, Dieu fit miséricorde. Alors oui, il vient à notre secours. Et cette décision, et c'est le troisième point, doit se concrétiser, doit se démontrer par un acte précis d'engagement. C'est le troisième point. L'engagement dont il est question ici, c'est l'engagement du baptême. Voyez, lorsque ces hommes, ces femmes, car il y avait certainement des femmes, ont posé cette question, que ferons-nous ? Pierre a dit tout d'abord, repentez-vous, et il a ajouté, et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Baptême, c'est un acte d'engagement. L'apôtre Pierre dira dans l'une de ses épîtres, n'est-ce pas, que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est vrai que nous vivons dans une société, l'avez-vous remarqué, où les gens ont de plus en plus de mal à s'engager. Ouais, ouais. C'est vrai, tenez, dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, on craint de s'engager, n'est-il pas vrai ? C'est pour ça que bien des gens aujourd'hui, des hommes, des femmes, des couples, eh bien, refusent de contracter mariage. Ah ! Se passer l'anneau au doigt, c'est trop contraignant. Et si ça ne marche pas ensuite ? Et si au bout de 6 mois, d'un an, ou peut-être de 10, eh bien, nous nous apercevons que finalement, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tandis qu'on se met ensemble. Autrefois, on appelait ça, excusez-moi, d'être si trivial, se mettre à la colle. Voilà, on se met ensemble. On vit maritalement, on fait comme si, mais ce n'est pas tout à fait comme si. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de s'engager. Je t'aime, oui, je t'aime, mais pas suffisamment pour te faire pleinement confiance et pour m'engager avec toi et accepter que tu t'engages envers moi. Ça, c'est la vision des choses. Dans le domaine professionnel aussi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Les gens qui ont un petit peu de responsabilité dans ce domaine-là nous disent que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui s'engagent dans un travail sérieusement et qui s'y tiennent. Cette notion d'engagement dans notre société dite moderne se galvaude, se dilue, voyez. Aujourd'hui, c'est le règne de l'individualisme. Moi, et rien que moi, je ne veux avoir de compte à rendre à personne. Eh bien, le baptême, c'est le contraire. C'est je m'engage. Je fais ce pas. Je prends cette décision de vouer, de consacrer, de donner ma vie au Seigneur. Je lui donne par ce geste du baptême ce que j'ai finalement de plus précieux, ma propre vie. Je me donne moi-même. Je m'engage. Je confesse, je concrétise. Je manifeste cet engagement au travers du baptême. Je signale cela d'une manière solennelle. Je choisis de servir Jésus-Christ, de l'aimer, de le servir, de lui obéir. Et oui, c'est ce qu'ils ont fait là. Soyez baptisés. Et il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce qui suppose que, il y en a, ils n'ont pas accepté la parole. Puisqu'il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Tout le monde n'a pas accepté parmi les auditeurs de Pierre. Certains ont accepté la parole. Et certains, en sont restés au stade de l'émotion. Leur petit cœur a battu pendant un moment la chamane. Mais les choses en sont restées là. Ils ne se sont pas engagés. Un tri, une sélection s'est opérée. Un tri opéré, non pas par Dieu, mais par les individus concernés. À ce moment-là, quand Pierre venait de dire « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés », il a fallu accepter ou refuser d'en passer par là. Être ou ne pas être baptisé. Certains ont accepté, d'autres pas. Chers amis, quel genre de choix ferez-vous? Peut-être vous direz « Oh, vous allez bien vite ». En la besogne, pasteur, laissez-moi le temps de réfléchir. Certes, il faut réfléchir. L'Écriture dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Il faut le temps de la réflexion. Cela se conçoit, mais il faut aussi réfléchir vite. Eh bien, et dites-moi en l'occurrence, la réflexion pour beaucoup d'entre eux a été extrêmement rapide puisque c'est sur le champ qu'ils ont pris cet engagement du baptême. Comprenons bien à propos du baptême. Le baptême n'est pas un acte magique. Non. Il ne nous sauve pas en lui-même. Ce qui participe à notre salut, c'est justement cette notion d'engagement que nous prenons vis-à-vis du Seigneur. Il y a des gens qui nous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous avez une espèce de baignoire là? Et vous trempez les gens comme ça, là-dedans, en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, ce que ça veut dire tout d'abord que nous n'avons rien inventé. Voilà, que les choses soient claires. Quand on lit l'Évangile, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à le faire au plus vite, eh bien on s'aperçoit que c'est Jésus qui a ordonné le baptême. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, si ma mémoire est exacte, il dit à ses apôtres, avant de retourner vers le ciel, « Allez !» et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que voulez-vous? Nous sommes des gens saints. Enfin, nous essayons de l'être. Et nous désirons nous conformer à l'ordre de Jésus. Et c'est pour cela que nous pratiquons le baptême. Et si nous voulons lui plaire, il faut lui obéir. Évidemment, je précise encore autre chose à propos du baptême. Il ne peut s'agir que d'un baptême d'adulte, tout au moins d'une personne en âge de prendre ses responsabilités, d'exercer un choix personnel, ça se conçoit. On parle ici d'engagement. Comment voulez-vous qu'un nouveau-né puisse prendre un engagement? Et je dirais que s'il ne peut pas s'engager lui-même, personne, pas même ses parents, n'est en droit de s'engager à sa place. Nos enfants, si tant est que nous en ayons, nous devons certes les éduquer dans les choses de Dieu, leur enseigner les principes évangéliques. Mais sachez une chose, c'est que la décision finale d'être ou ne pas être disciple de Jésus, cette décision leur appartient de plein droit. Alors c'est une affaire d'adultes, et je m'adresse cet après-midi à un auditoire d'adultes, des hommes, des femmes qui sont capables de réflexion, d'exercer leur libre arbitre et de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et puis enfin, et ce sera le dernier point, voyez, notre réunion ne traînera pas en longueur cet après-midi, enfin il faut persévérer. Avez-vous remarqué que c'est à cela aussi que le texte fait allusion? Il est dit, je l'ai déjà signalé, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, excusez du peu, entre parenthèses, et il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est là la naissance, je dirais l'acte de naissance officiel de l'Église chrétienne. Voilà. La première communauté chrétienne, que faisait-il ? Eh bien, il se réunissait fréquemment et il persévérait. Voyez ? Il persévérait. Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer ? C'est très simple. C'est aller jusqu'au bout. On sait très bien que dans une compétition sportive, une course, cycliste ou pas, l'important, contrairement à ce qu'a dit quelqu'un, c'est pas de participer, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est non seulement de prendre le départ, mais c'est de franchir aussi la ligne d'arrivée, si nous voulons avoir quelque chance de remporter la compétition. Eh bien, en matière de vie spirituelle, c'est pareil. C'est pareil. L'important n'est pas seulement de partir, de démarrer, de s'engager. Oui, c'est important, parce qu'on n'arrivera jamais si on ne commence pas par partir. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. C'est quoi le bout ? Ben, le bout, c'est la fin de notre vie. Jésus dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors si nous allons jusqu'au bout, et même jusqu'au bout du bout, nous entrerons dans l'éternité, nous rejoindrons le Seigneur. Mais pour persévérer, pour tenir ferme dans notre engagement à être disciple de Jésus, pour continuer à aimer le Seigneur, à le servir, à lui obéir jour après jour, mois après mois, année après année, tout au long du temps qui nous reste à vivre, il faut s'en donner les moyens pour persévérer. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils se retrouvaient fréquemment à l'écoute de la parole de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, voyez. Après avoir été baptisés, n'ont pas dit, eh bien voilà, c'est une affaire personnelle, strictement privée, je ne veux plus avoir rien de commun avec ces gens-là. Non, 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 ils étaient groupis, là, hein. Ils s'associaient les uns aux autres, ils priaient ensemble, ils écoutaient la prédication de l'Évangile ensemble, ils vivaient ensemble, ils partageaient leur foi qui leur était commune. C'est ainsi qu'on peut persévérer. Vous savez, j'ai compris ça. J'ai compris ça. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs dans la foi pour aller jusqu'au bout. Et je bénis Dieu pour toutes les fois où, alors que j'étais sur le point de faiblir, quelqu'un m'a rattrapé au passage, m'a remis en piste. Peut-être seul, livré à moi-même, je me serais découragé, je me serais lassé, je me serais écarté du droit chemin. Mais béni soit Dieu pour toutes les fois où quelqu'un a pu être pour moi une aide précieuse et m'a permis jusqu'à présent de persévérer. Voyez, l'émotion, la décision, l'engagement, la persévérance. C'est comme ça qu'on va au ciel, mes amis. C'est comme ça. Alors, maintenant, en guise de conclusion, je voudrais vous dire ça. C'est ce qu'ils ont fait, eux, il y a bien longtemps, 2000 ans environ. Vous, que ferez-vous ? La même parole que celle qu'ils ont entendue vous a été prêchée. Le même message de l'Évangile vous a été annoncé. Le même Sauveur, Jésus-Christ, vous a été présenté. Que ferez-vous ? Que ferez-vous ? Vous déciderez-vous à dépasser le stade peut-être de l'émotion que vous ressentez dans de telles réunions ? Vous déciderez-vous pour le Seigneur ? Vous engagerez-vous avec lui Et désirerez-vous, avec le secours de sa grâce, persévérer jusqu'à ce que, enfin un jour, vous entriez dans le royaume de Dieu? C'est le désir du Seigneur, vous savez, qu'un jour il puisse vous accueillir. Vous avez réfléchi, ça? C'est qu'un jour votre vie, on le sait tous, elle s'achèvera. Oui ou non? Je ne veux pas vous mettre le bourdon, mais nous sommes tous en sursis ici. Certains, peut-être, ils en ont encore pour 10 ans, d'autres, peut-être, pour 60 ans, mais que ce soit peu ou que ce soit tard, bientôt ou plus tard, il y aura un terme à notre vie. Et notre avenir éternel dépend du choix que nous serons faits dès maintenant. Alors, faites le bon choix. Venez à Jésus. Dites-lui, Seigneur, ça suffit. J'ai compris, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai compris ce qui était essentiel. Je veux, Seigneur, te donner ma vie, me décider pour toi, m'engager avec toi et avec ton aide, persévérer jusqu'à ce moment béni où tu me recevras dans la gloire. Amen. Recueillons-nous quelques instants, prions le Seigneur. Voulez-vous ?